Un écureuil sur la bruyère se lave avec de la lumière. Une feuille morte descend doucement, portée par le vent. Et le vent balance la feuille juste au-dessus de l'écureuil. Le vent attend pour la poser légèrement sur la bruyère, que l'écureuil soit remonté sur le chêne de la clairière, où il aime se balancer comme une feuille de lumière. Comme l'écureuil de ce poème de Maurice Carême, soyons aussi feuilles de lumière et n'hésitons pas à prendre de la hauteur en montant sur un chêne. Dieu vous accueille. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous a convoqués. Dieu se réjouit de nous voir réunis. Recevons de lui la grâce et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte famille. Avec Marie-Vonne, nous animons ce culte. Pour nous accompagner, nous avons un orchestre. Nous remercions Christophe qui est à l'accueil et Antoine qui l'a soutenu. Nous remercions Andrea et Jean-David pour cette magnifique chanson d'accueil et d'entrée, et Daniel pour les fleurs. Nous chanterons les cantiques qui sont affichées et qui sont aussi projetées. Merci à Agnès et à Antoine qui sont qui ont fait cette projection et qui ont organisé cette projection. Dieu nous ouvre le chemin et conduit nos pas dans sa lumière. Je vous invite à chanter le premier cantique. Donc le 51-20.
Alors, les enfants, je vais me mettre là, qu'est-ce que vous voyez de dessiné ?
Un arbre.
Oui, un arbre. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre ? Ouais, des feuilles.
Des branches.
Des branches. Des racines. Elles sont sur la lune ? Non ? Sur la terre. Quoi d'autre ? Est-ce que vous voyez d'autres choses ? C'est déjà pas mal, hein, un arbre comme ça. Et les grands. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on voit dans l'arbre ? Non ? Un cœur, oui. Les cœurs, oui. Pour les plus grands, est-ce que dans la Bible, on parle d'arbres ? Oui. Alors, est-ce que vous en connaissez certains noms ? Oui, dans des arbres qui sont dans la Bible. Le figuier, oui. Le cèdre du Liban. En fait, il y en a 56, donc on ne va pas les dire les 56. Hein. Mais on va voir si vous les connaissez. Donc, il y a Agnès qui va montrer des images et vous allez essayer de savoir ce que c'est. Le cèdre. Bravo. Très bien. Alors, non, ça finit par Sia, mais ce n'est pas un forsythia. Un acacia, oui. Facile. Oui. Un figuier, oui. Un peu plus difficile. Ah oui, non, mais vous êtes trop fort. Vous avez voulu mettre des pièges. Grenadier. Oui, la vigne. Voilà, alors là, le plus dur de la série. Pas encore le sycomore. Oui, Hysope, bravo. Il n'y a rien à gagner, hein, mais bravo, c'est l'Hysope, oui. Voilà, donc Gaston, c'est quoi ? Ben oui, un sycomore, voilà. Voilà, donc vous voyez tous ces arbres. Il y a des histoires autour de ces arbres dans la Bible. Et aujourd'hui, on va raconter une histoire qui se passe avec un sycomore et un petit homme qui a dû grimper dans le sycomore pour pouvoir voir Jésus. Vous savez comment il s'appelle, ce petit homme ? Zachée. Voilà. Donc, les petits du jardin biblique et d'école biblique, vous allez devoir vous mettre debout avec les moniteurs et les monitrices parce que vous allez vous mettre face au public et on va mimer le chant qu'on va chanter. Et il y a Cyrielle qui va nous montrer comment on fait. Et les autres, on peut se mettre debout aussi. Et pour ceux qui sont un peu à l'aise dans leur corps, vous pouvez aussi mimer si vous avez envie. Voilà.
Vous montrez au web.
Prions maintenant avec un texte inspiré par Michel Hubot, franciscain. Seigneur, apprends-moi à me taire, à faire silence, du silence une prière, à laisser pousser de l'intérieur les racines de mon cœur, à devenir un arbre qui porte des fruits pour les hommes qui ont faim d'amour et soif de vie. Seigneur, donne-moi le courage de savoir encore m'arrêter pour écouter le murmure de la parole de vie. Fais de moi un arbre solidement planté près d'un cours d'eau et qui porte fruit. Enracine mon amour aux sources de la foi et rien ne me déracinera. Seigneur, Donne-moi la force de creuser au-delà des couches d'argile, de dépasser en moi bien des zones stériles, de contourner patiemment les cailloux et les pierres, car la solidité d'un arbre s'enracine dans l'épaisseur de la terre. Fais de moi un arbre solide et de plein vent, un arbre dont la sève jaillit des racines du cœur. Que je sache accueillir ton amour qui gardera vert le feuillage de ma vie. Seigneur, enracine-moi jour après jour, afin que les fruits de ma vie aient le goût de ton amour. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le cantique. C'est vers toi que je me tourne, les deux couplets. Avant de lire les Écritures. Seigneur, notre Dieu, viens semer en nous ta parole et permets qu'elle s'enracine dans le terreau de notre vie. Permets aussi qu'elle produise du fruit en abondance et comme le bon grain pousse au milieu de l'ivraie, donne-nous de grandir dans la foi et l'espérance sans porter de jugement sur ceux qui nous entourent. Accorde-nous surtout la grâce de la fidélité jusqu'au temps de la moisson. Amen. Et j'invite Héloïse et Raphaëlla qui vont partager avec nous les textes d'aujourd'hui.
Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Je bénis celui qui met sa confiance dans le Seigneur et qui cherche en lui sa sécurité. Il semble à un arbre planté près de l'eau et dont les racines s'étendent jusqu'au ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même durant l'année de la sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits.
Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs des impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa dans un arbre, ainsi qu'aux morts. pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquèrent Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai quatre fois autant. » Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
L'histoire de Zachée plaît souvent beaucoup aux enfants, parce qu'ils s'identifient facilement à cet homme petit qui s'élève et qui rencontre le Christ. Et il peut plaire aussi à tous ceux qui aussi se sentent petits, petits dans la foi, petits par rapport à ce que semblent être les autres, ou petits par rapport à la grandeur de l'idéal que nous donne Jésus et que nous voulons faire nôtre. Et ce texte est aussi essentiel. Il nous montre quelqu'un à qui Jésus dit qu'il est sauvé. Ce n'est pas si fréquent dans les récits des évangiles. Nous pouvons donc chercher pourquoi Jésus a pu dire à Zachée que le salut était arrivé sur sa maison. Qu'est-ce qu'a bien pu faire Zachée pour mériter cela? On peut être tenté de chercher la solution dans les paroles mêmes de Zachée qui propose de rendre la moitié de ses biens. Est-ce donc par ses œuvres que Zachée est sauvé? Non. La preuve, c'est que Jésus ne le félicite nullement de ses bonnes œuvres. Il le laisse parler et ensuite il lui dit qu'il est sauvé. C'est vrai. Mais il ajoute aussitôt, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ainsi, la conclusion même du récit montre que ce n'est pas Zachée qui se sauve par ses œuvres, mais c'est Jésus, le Fils de l'homme, qui le sauve, alors qu'il ne mériterait que d'être perdu. Si ce n'est pas dans ses mérites qu'il faut trouver ce qui fera accéder Zachée au salut, alors on ne peut que le chercher dans sa démarche même pour rencontrer le Christ, rencontre libératrice qui fait que finalement, Jésus viendra habiter chez lui et que Jésus lui déclarera que le salut est arrivé sur lui et sur sa maison. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. L'histoire se passe déjà à Jéricho, qui n'avait pas une très bonne réputation, car c'était une ville qui s'était opposée à l'entrée du peuple élu dans la terre promise. Cette ville représente ainsi l'opposition à la promesse, elle est le symbole même du refus de Dieu. Ensuite, il nous est dit que Zachée était le chef des collecteurs d'impôts de la ville. Ce poste imposant ne faisait pourtant pas de lui un homme estimé, bien au contraire. Ah oui, parce qu'à l'époque, l'inspecteur des finances publiques n'était pas, comme aujourd'hui, le fonctionnaire dévoué pour son pays, serviteur de l'intérêt général, dans la probité, le respect des lois. Non, non, non. À l'époque, les agents du fisc ne recevaient pas cette belle estime qu'ils ont aujourd'hui. En ce temps-là, les collecteurs d'impôts travaillaient pour l'occupant romain. Ils étaient des traîtres, des contributeurs, contribuant à l'accroissement de la puissance romaine. Et non contents de collaborer avec l'envahisseur, ils s'en mettaient également plein les poches en taxant leurs compatriotes au-delà de ce qui leur était demandé. Bref, collecteur rimait avec pêcheur, malfaiteur, profiteur. Oui, Zachée était bien mauvais dans son rôle d'humain. Et pourtant, déjà dans son prénom, l'espoir était caché. En effet, Zachée vient de Zakaï en hébreu, ce qui signifie celui qui est juste, celui qui est pur. Nous avons donc là une sorte d'autocontradiction avec ce personnage qui, dans le fond, s'appelle le juste, mais qui dans les apparences et son attitude est celui qui s'oppose à Dieu. Il est en fait comme nous tous, avec beaucoup de mal, d'infidélité dans le fond de son cœur, mais finalement aussi au plus profond, quelqu'un de juste et qui souhaite être pur. Il y a souvent bien des obstacles entre nous et Dieu, obstacles qui sont les mêmes pour Zachée que pour nous. Ce qui est positif aussi chez Zachée, c'est qu'il cherchait à voir Jésus. C'est le point de départ de tout. On pourrait même s'arrêter là, parce que l'Évangile nous dit « Celui qui cherche, trouvera ». Malgré son imperfection, il avait une sorte d'aspiration vers le Christ, vers Dieu. C'est même ce qui va le sauver, parce que cette aspiration, c'est la foi. Et c'est bien la foi qui nous sauve. La foi, c'est une volonté, une quête, une recherche, un mouvement qui nous pousse en avant. C'est cette dynamique qui nous sauve, plus que le trésor acquis de nos bonnes œuvres ou de nos mérites. Le mouvement de Zachée continue. Il est ainsi écrit « Il courut en avant ». Il fait là un geste essentiel. Il ne se décourage pas. Il ne reste pas sur place à maugréer, à macérer ses aigreurs à l'égard de la foule, de sa petitesse qui l'empêche de voir Jésus, en disant que c'est la faute des autres, ou que c'est peut-être sa faute aussi. Il va de l'avant, vite, pour pouvoir voir Jésus. Ce qui compte, c'est d'avancer. Ensuite, il est dit qu'il monta sur un sycomore. Il monte. Voilà encore quelque chose d'essentiel. Zachée était petit, c'est vrai, mais il cherche à y remédier. Il va essayer de trouver quelque chose lui permettant de dépasser son handicap. Il prend conscience de sa faiblesse, ne s'en décourage pas et se trouve une excuse. Il ne se trouve pas d'excuse pour ne rien faire. Au contraire, il va trouver comment remédier à sa petite taille. Il ne considère pas cette difficulté comme une fatalité. Il a conscience de ce qui est juste et il ne veut pas se désespérer et il souhaite réagir. Alors, il monte dans ce sycomore. Il trouve un moyen pour aider à aller plus haut. Le sycomore est une image fréquente de la Bible. Dans cette région, c'est aussi appelé un figuier sycomore. Donc c'est une sorte de figuier sauvage, et le figuier, comme le sycomore, est le lieu de l'étude de la Bible. Dans la tradition rabbinique, se mettre sous le figuier veut dire étudier la Torah. Par conséquent, quand on y dit que Zachée monta dans un sycomore, cela veut dire que la manière que Zachée trouve pour s'élever, pour avoir une chance de voir passer Jésus, c'est de s'élever dans la lecture de la Bible, pour voir des choses de plus haut, avec recul et perspective. Et c'est dans cette étude qu'il va monter en empoignant les unes après les autres les branches des versets bibliques. Nous devons garder dans la Bible une espèce d'élévation et de hauteur qui nous dépasse, afin que nous puissions toujours nous élever en elle. Monter, s'élever dans la méditation et dans la réflexion, non pas pour être le plus grand, mais pour avoir une chance d'apercevoir le Christ. Mais ce n'est pas dès qu'il monte que Zachée aperçoit le Christ. Il y a une attente. En effet, Jésus ne se rend pas présent comme ça immédiatement dès qu'on lit la Bible. Il faut un temps d'attente, qui est celui de la maturation, et qui permet de s'ouvrir afin de mieux accueillir. Et au bout d'un certain temps, le Christ vient à passer, et alors tout à coup, il y a une vraie rencontre et tout change. Et pourtant, est-ce que l'histoire s'arrête là ? Non. L'expérience spirituelle est une étape, mais elle n'est pas le but en soi. En effet, la première chose que dit Jésus à Zachée quand il l'aperçoit, c'est « Zachée, descend ». C'est étrange. Pourquoi Jésus lui dit de descendre de son arbre ? Sans doute parce que justement, l'élévation par la lecture, la réflexion, la prière, c'est bien pour un temps, mais ce n'est pas le but en soi. Nous devons dépasser toutes ces pratiques pour aller trouver sur terre la véritable rencontre avec le Christ. Là est le stade ultime. Il y a d'abord cette démarche spirituelle où l'on monte pour s'élever dans les choses spirituelles, dans la connaissance des textes. C'est un premier temps. Mais ensuite, il convient de redescendre sur terre pour vraiment rencontrer les autres et Dieu. Le Christ lui dit ensuite « Descends parce qu'il faut que j'aille chez toi. » Quelle bonne nouvelle! de savoir que Jésus est là, dans nos relations humaines, qu'il est présent dans toutes les dimensions humaines de notre existence. On ne cherche pas à gagner Dieu comme on montrait à un mat cocagne. Ce Dieu qui nous donne la vie n'est pas vraiment dans la hauteur inatteignable. Il est en bas, il nous attend. Il vient vers nous et il nous dit « Descends de ton arbre, descends de tes prétentions et ces fausses hauteurs que tu te donnes, et simplement descends et ouvre les bras pour m'accueillir. » Le royaume de Dieu ne se gagne pas, il se reçoit. Alors, s'il se reçoit, pourquoi avoir tant insisté sur l'importance de monter ? C'est que le royaume de Dieu est une chose complexe. On ne peut pas dire que la relation à Dieu soit seulement de recevoir Dieu ou de le chercher dans l'étude. Il faut sans cesse passer de l'un à l'autre. Il est vrai que si Zachée n'était pas monté dans le sycomore, Jésus ne lui aurait pas adressé la parole. Si Zachée n'avait pas eu conscience qu'il était petit, il ne serait pas monté. Mais si Zachée n'était pas descendu de son arbre, il serait aussi passé à côté du Christ sans une réelle rencontre. La vie chrétienne, ce n'est pas de rester en bas, passivement, en attendant que la présence de Dieu nous tombe dessus. Ce n'est pas non plus de chercher à s'élever par soi-même, de monter en essayant de gagner des points de paradis. Mais c'est sans cesse monter dans l'arbre et en descendre. C'est monter dans la lecture et descendre en étant soi-même. C'est aspirer la présence de Dieu et souffler l'action de grâce et sa bénédiction. C'est s'élever en Dieu vers la présence lumineuse de sa grâce et de son amour et redescendre sur terre pour œuvrer dans le monde et rencontrer les autres. Alors nous recevons cette nouvelle comme Zachée qui nous est dit être tout joyeux. Oui, nous avons alors à la fois le salut et la joie. La joie d'appartenir au peuple de Dieu, comme Jésus lui dit. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce qui veut dire, celui-ci est héritier de la promesse. Or, le propre d'un héritier, c'est qu'il gagne quelque chose qu'il ne méritait pas. Ce qu'il gagne, c'est d'être dans le peuple de Dieu, d'être un enfant de Dieu, d'être dans la joie, pour la vie, pour l'éternité. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique 45-10. J'ai soif de ta présence.
Oh,
nous restons debout et nous allons dire la profession de foi que Antoine vient de projeter. C'est Agnès. Désolée Agnès, c'est vrai, c'est Agnès. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous révèle notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et reste. Nous croyons que Jésus ressuscité demeure toujours celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans la Sainte Cène, dans l'Assemblée des fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystère de notre vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les hommes de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Amen. Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Celui qui sème largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci, Éternel, pour ces gestes de don que tu suscites en chacun de nous, chaque jour, et à ton service. Amen. Voici maintenant le temps des annonces. Notre paroisse est sans pasteur, certes, mais bien vivante, et vous verrez, le nombre des annonces révèle cette vivacité.
Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous tous, quand même, de rester fidèles au culte famille après le départ de Charlotte. Il faut dire que l'alternance des cultes du pasteur Magali Girard et du duo de choc Marivonne Anne-Francine n'est pas mal non plus. Le conseil tient par ma voix à les remercier chaleureusement pour cet engagement. Tous les autres merci ont été dits, mais je les répète quand même. Merci à Jean-David et aux musiciens, à Andrea, Merci à X, non c'est Antoine, qui m'a aidé à aider à l'accueil. J'avais mis X parce que je n'avais pas d'autres conseillers, il s'est dévoué au dernier moment. Et bien sûr à Antoine et à Agnès, hein, ne faut pas l'oublier, pour la projection. Voilà. Alors, la quantité et la qualité des annonces de ce jour marquent le dynamisme toujours présent de notre Église grâce aux nombreux bénévoles, je tiens bien à souligner, qui l'animent. Alors, je commence par des annonces plus ou moins ordinaires, parce qu'en fait, on m'a rajouté des annonces. On prépare très bien, j'ai tout écrit et tout, puis ben, on en rajoute au fur et à mesure, et à la fin, ça fait un espèce de truc compliqué. Bon, enfin bon, des annonces ordinaires. Alors aujourd'hui, Pierre Benoît n'est pas parmi nous. Il est à Oullins pour la réunion des présidents et des trésoriers. C'est très important. Ils sont en train de préparer le synode qui va avoir lieu prochainement. Et j'en reparle. Donc soyez bien attentifs. À la fin, j'en reparle. Et après, j'ai oublié de vous dire, Francine fait une interrogation écrite à la fin. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Alors hier. Oui, je commence par hier. C'est quand même pour remercier les jeunes qui sont venus au groupe de jeunes dans nos locaux avec Marianne Delcroix et une autre personne dont j'ai oublié le nom. Voilà, elle est là. Merci. hier, il y a aussi le groupe PPP, Pain Parole Partage, qui s'est réuni. A priori, c'était hier. Donc, c'est pas aujourd'hui, donc. Tout à l'heure, il va y avoir une réunion des parents de l'école biblique. Donc c'est très important, venez à cette réunion à 14h30. Ce soir, à 20h, il y a un webinaire en visioconférence sur le thème de l'écologie. C'est proposé par le groupe interreligieux, donc les juifs, les chrétiens, les musulmans et les bouddhistes. Les renseignements sont dans le hall, en fait c'est affiché sur l'affichage d'hiver. C'est un papier qui dépasse juste sur le radiateur de ce côté, par là. La chorale se réunit mardi à 19h15, le groupe de prière mercredi à 18h. Vendredi 15 octobre, le groupe œcuménique se réunit au temple. Attention, l'horaire a changé, c'est à 18h30. C'était marqué 18h dans le journal, mais ça a changé entre-temps. C'est pour partager autour de la Bible. Et c'est la première réunion de cette année. Samedi 23 octobre, c'est la journée de formation des prédicateurs à Annecy de 9h30 à 15h30. Les repas dans toutes nos activités pour l'instant sont tirés des sacs. Il y aura le pasteur Jean-Pierre Sternberger qui interviendra sur le thème « Enfer et paradis ». C'est ouvert, on tient à le préciser, à tout le monde. On n'est pas forcé, après, on ne nous demande pas tout de suite après de faire une prédication. Ce groupe-là, il est ouvert même à des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas envie de prêcher par la suite. Renseignement auprès de Marie-Vonne. Je continue par une annonce triste. C'est le décès de Jacqueline Robin, qui avait été une personne active dans notre paroisse il y a de cela quelques années. Le service aura lieu au crématorium des îles, mardi à 16h. Je profite pour remercier l'équipe des services funèbres qui assure cette année la totalité des sépultures en l'absence de pasteur. En particulier Nicole Delcroix qui, chapeau, je ne sais pas si tu trouver le mot, elle ne dirige pas, enfin, elle est très souple, hein, donc voilà, chapeaute l'équipe. Toujours dans les annonces ordinaires, c'est-à-dire qu'on fait assez souvent, il y a l'appel de l'ACAT. Donc vous trouverez dans le présentoir ce petit encart où vous prenez la lettre et vous mettez un timbre dessus, simplement vous signez et vous l'envoyez. Pour cette année, ce mois, l'appel concerne un journaliste et défenseur sahraoui, c'est au Maroc, des droits humains. Il s'appelle Mohamed Lamine Hadi. Il a été arrêté en 2010 comme d'autres prisonniers. Et depuis 2017, il est à l'isolement. Et depuis 2021, en signe de protestation, il a mené une grève de la faim de 69 jours sans pour autant recevoir des soins de la part de l'État. Donc voilà, sur le présentoir, vous avez cet encart à récupérer. Ensuite, bon, je continue, vous voyez, ça, c'est très long. Hein. Deux informations et propositions. Alors, tout d'abord, une information sur les travaux. Ils avancent bien, sous la houlette de Franck Armingo, et avec une équipe qui commence à s'étoffer et travaille dans la bonne humeur, avec efficacité. N'hésitez pas à vous signaler, il y a un papier qui est prévu sur le panneau, alors là c'est de l'autre côté, c'est en face de ce que je vous disais, c'est sur l'autre radiateur, près des vitres. Si vous pouvez vous joindre à eux, c'est pas forcé de travailler trois mois hein, dessus, hein, c'est peut-être juste pour une journée.
C'est les travaux du presbytère.
C'est les travaux pour le presbytère, oui. T'as raison de préciser, mais je pense... Ouais. Non, parce que Marie-Vonne souhaiterait que je travaille chez nous, mais non, c'est pas pour ça. Alors, bon, bref. Deuxième information, certains ont souhaité, nous ont posé la question, savoir si la garderie allait reprendre. Pour l'instant, nous avons le souci de la remettre en place avec un fonctionnement plus harmonieux. Dans les derniers temps, elle reposait presque entièrement sur quelques personnes, trop peu nombreuses. Il est difficile de leur demander de reprendre seul le flambeau. Donc, nous réfléchissons à une nouvelle organisation impliquant peut-être les parents d'enfants qui ont besoin aussi de la garderie. Merci aux bonnes volontés de se signaler auprès de l'un des conseillers. Donc, il y a Francine, il y a moi, il y a Pierrick, j'ai vu, Antoine. Voilà. Signalez-vous parce que c'est important. Je pense que c'est bien qu'on puisse remettre en place la garderie. Plus de raison de ne pas le faire, à part ce problème d'organisation, et je pense qu'il voilà, faut bien y réfléchir. Alors, là j'en viens, il faut être de nouveau attentif, vraiment, parce qu'il y a deux temps forts essentiels pour notre Église qui vont avoir lieu. Et alors, le premier temps fort, c'est la journée d'offrande d'automne, le dimanche prochain, 17 octobre, avec le culte présidé par Gilles Pivot, ancien pasteur de notre Église, suivi et précédé du petit marché proposé par le CERA, le service d'entraide de notre Église, qui a proposé différents produits en vente pour ses actions. Ce n'est pas pour s'en mettre plein les poches comme Zachée. Alors, le repas ensuite qui va suivre, sera donc tiré des sacs, et il y aura une causerie, donc animée par Gilles Pivot, entre autres, sur un sujet toujours aussi passionnant, la laïcité. Je pense qu'il faut bien insister à vous dire, venez nombreux, c'est l'occasion pour l'Église de faire Église, en mélangeant, comme à notre habitude, comme c'est aujourd'hui, les générations. C'est très important de faire des rencontres, ça permet de rencontrer d'autres personnes de la paroisse. Une autre rencontre, donc je terminerai par une invitation, alors pour le coup exceptionnelle, ça n'arrive pas toutes les années, ça n'arrive pas toutes les décennies, je crois que c'est beaucoup plus rare. On vous en a déjà parlé, il s'agit du synode qui va avoir lieu à Annecy, au balcon du lac. Alors, il s'agit pour une fois, maintenant j'en viens à l'invitation pour vous, personnellement, il s'agit pour une fois de sortir de notre temple pour assister au culte de clôture, donc, du synode régional. Vous serez accueillis à l'église de Grand Mosinges, avenue de la République à Crangevrier. J'ai mis une affiche sur la porte de l'entrée, donc vous pouvez voir les renseignements. Il y a un bus qui circule, qui arrive bien au bon moment, juste un peu avant 11h, donc c'est pratique. Attention, c'est 11h, hein. Bien dit, c'est 11h, c'est pas 10h, donc ne venez pas trop tôt. Enfin, si vous venez trop tôt, c'est très bien, vous nous aiderez à organiser, voilà. Il sera présidé par Monsieur le pasteur Eliane, ça se dit, Cuvillier, en présence de tous les pasteurs de la région, des conseillers régionaux et des délégués synodaux de toutes les paroisses de la région. Donc c'est un moment, il sera suivi d'un moment d'échange, un pot dans une salle paroissiale. Donc L'église est grande, c'est pour ça qu'on l'a choisie, des raisons évidentes. Il y aura beaucoup de monde, hein, si vous êtes tous là, en plus des synodaux, ça sera super. Voilà, et j'ai pas dit la date. 14 novembre. Ah oui, c'est à la fin du week-end du 11 novembre. Il n'y a aucune raison de louper, puisque c'est la fin du week-end. À 11h. Voilà, j'ai fini.
Donc on ne vous avait pas menti, hein. Il y avait quand même quelques annonces. Merci Christophe. J'invite maintenant Marguerite pour la prière d'intercession. Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce que c'est lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton ? Non, dit le rabbin. Est-ce que c'est quand on peut distinguer un dattier d'un figuier ? Non, dit le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc ? Demandèrent les élèves. Le rabbin répondit : c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Seigneur, éclaire nos pensées et dirige nos actes. Permets que le jour se lève. Permets que tes fidèles deviennent un unique reflet de la lumière du Christ, pour qu'elle brille partout et illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Et d'un même cœur et d'une même voix, nous te prions, Seigneur, comme Jésus l'a enseigné à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allez et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te fasse briller, que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de sa rencontre. Que le Seigneur te donne la paix. Amen. Et nous chantons « Oh que ces choses belles ». Thank you.
Bon dimanche à tous.